Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Merci d'être là avec nous dans nos studios. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, donc pour cette première émission de la saison de l'émission Écologie intégrale, je vais vous présenter le parcours qu'on vous propose de vivre tout au long de 8 séances. Donc déjà par qui sont donnés les enseignements? Donc c'est des membres du groupe Laudato Si en action du diocèse de Fréjus-Toulon, qui est une nouvelle pastorale du diocèse. L'objectif, c'est de sensibiliser le diocèse, le clergé comme les fidèles, à la nécessité d'une conversion écologique. Deuxième objectif, de fédérer les initiatives sur ce sujet. Et puis enfin, de promouvoir le label Église verte, dont on aura l'occasion de reparler au cours de ces émissions, j'imagine. Alors comme je le disais au début, ce qu'on vous propose pour cette nouvelle année, c'est un parcours qui a été animé par notre groupe au premier semestre 2021 dans le diocèse, qui a été repris d'une proposition d'une paroisse. Donc ça se décompose en une séance par mois, le troisième lundi du mois. Je précise que ceux qui veulent aller plus loin sont invités à aller sur le site de Radio Maria pour y trouver des exercices qui vous est proposé, encouragé même de faire entre deux séances, avec des ressources éventuellement associées aux enseignements. Donc il y aura parfois des PowerPoint ou des images qu'on vous proposera de consulter. On terminera chacune de nos émissions par la prière pour la création qui est proposée par le pape François dans Laudato Si. Donc si vous avez un exemplaire de Laudato Si dans la main, vous allez à la toute fin et puis vous trouvez cette prière. Donc qui vous parle? Donc comme Sandrine l'a précisé, Pierre-Henri, marié, père de 1 et bientôt 2 enfants. Je fais partie du diocèse de Fréjus-Toulon. Et pour vous faire un témoignage très très rapide, qui vous permettra peut-être de mieux comprendre ce que je raconte. Moi, j'ai vécu une conversion écologique, on va dire, pas flagrante, mais progressive, à travers le scoutisme qui éduque à la sobriété, et puis à travers un groupe d'amis cimenté par des questions d'abord sur les sujets sociaux au moment des mouvements de 2013, puis qui s'est complètement transformé par la lecture de Laudato aussi. Et puis depuis mon mariage, depuis notre mariage, eh ben, on essaye de vivre à fond cette dimension écologique. Donc voilà, ça c'était un peu l'introduction générale. Maintenant, pour vous présenter rapidement le parcours. Alors en fait, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un parcours qu'on a repris et adapté. À l'origine, c'était un parcours de carême, donc sa vocation, elle est claire. C'est vivre une véritable conversion écologique. J'insiste et je réinsisterai sur ce mot conversion écologique. Et donc, au long de ces 8 séances, on va s'attacher à orienter notre cœur d'une manière nouvelle, à l'école de Saint François d'Assise, du pape François et de la parole de Dieu. Et donc, avec pour guide principal, Laudato Si. Vous êtes invité, si vous le pouvez, à vous procurer un exemplaire et puis à le garder à proximité immédiate lors de cette émission. Et puis, si vous avez également une bonne Bible, gardez-la sous la main. Notre chemin pour ces 8 prochaines émissions va se décliner en 4 thèmes, qu'on va chacun approfondir en 2 sous-thèmes. Le premier qui commence aujourd'hui, c'est ralentir, avec en premier lieu le temps de la création, puis la prochaine fois le temps de la rencontre. Ensuite, contempler, en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, et contempler Dieu à l'œuvre dans ma vie. Partager, pour ouvrir des chemins de liberté, et se laisser ouvrir un chemin vers Dieu. Et enfin, vivre sobrement, pour vivre la fraternité universelle dans l'optique du bien commun. Alors, donc premier topo, on est parti. Ralentir le temps de la création. Vous pouvez peut-être vous poser certaines questions en entendant que Radio Maria diffuse une émission Écologie intégrale. Pourquoi un parcours sur l'écologie? Est-ce que l'Église se met au vert? Est-ce qu'elle essaye de rattraper des jeunes qui sont conquis par ces questions de l'urgence climatique et qui ont un peu de mal à trouver place dans nos communautés? Est-ce que simplement elle cède à la pression progressiste d'une branche de ses fidèles? Il est évident d'un côté que les rapports du GIEC se succèdent, les phénomènes climatiques ne nous laissent plus de doute. Le monde vit une prise de conscience sur les enjeux climatiques. Et alors que les prémices d'une grave crise écologique se profilent, on en voit des bouts presque tous les jours, on voit qu'il y a des proches qui changent de comportement, des penseurs qui prônent un autre style de société, des jeunes qui se mobilisent pour changer le monde. Et l'Église, elle, est pas en reste, pardon. Et en fait, elle n'a jamais été sur les questions sociales. Et l'apparition de Laudato Si en 2015 a constitué pour beaucoup de catholiques, votre serviteur compris, un électrochoc, un point de départ, une mise en route. Et donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement un enjeu extérieur, une urgence climatique où la planète se vengerait, mais qu'il y avait derrière un véritable enjeu de conversion. Et cette urgence, le pape François en parle en Laudato Si 18, l'accélération continuelle des changements de l'humanité et de la planète s'associe aujourd'hui à l'intensification des rythmes de vie et de travail dans ce que certains appellent rapidation. Bien que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd'hui contraste avec la lenteur naturelle de l'évolution biologique. À cela s'ajoute le fait que les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas orientés vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. Et donc, on vient de voir un paradoxe qui a à la fois une urgence de la une urgence climatique et en même temps un monde qui va de plus en plus vite et qui semble se précipiter droit dans le mur, comme on peut l'entendre parmi certains tenants de l'écologie catastrophiste. Et donc, paradoxalement, pour répondre à cette urgence, on va commencer par ralentir. C'est le titre de ce premier topo et du topo qui suivra, par ralentir en sortant du rythme fou qu'une société moderne nous a imposé et que François décrit bien dans le passage que je viens de citer. Alors, on va ralentir pour retrouver notre place en tant qu'homme dans cette création, en replongeant dans le plan de Dieu à l'origine. Et donc, on va faire ça de manière très classique en trois parties. Déjà, qu'est-ce que la création? Quelle place Dieu a-t-il prévu pour l'homme? Qu'est-ce que fait l'homme dans tout ça? Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut réorienter notre existence pour correspondre à ce plan de Dieu? Et voilà, et du coup, comment et pourquoi vivre une conversion écologique? Alors voilà, d'abord, qu'est-ce que la création? L'idée, c'est de planter le décor. Quel est le plan de Dieu pour cette création? Alors pour ça, pas besoin de chercher bien loin, parce que le livre de la Genèse, au chapitre 1, il suffit d'ouvrir la Bible à la première page. La Genèse fournit des réponses bien claires à beaucoup des interrogations de nos contemporains. Je vous propose donc de relire le chapitre 1, de le méditer. Voilà, je vais le relire. Et comme le thème de la journée, enfin, cette matinée, c'est ralentir, je vous propose d'abord de fermer les yeux à la lecture de ce texte pour laisser la parole résonner en vous. Et puis, je vous propose vraiment de rendre grâce pour chaque élément qui constitue la création. Voilà, vous pouvez fermer les yeux en adressant une louange spontanée au Seigneur. Merci Seigneur pour Frère Soleil qui nous éclaire. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons. Merci pour le ciel bleu de notre Provence. Merci pour la lumière, merci pour les eaux, merci pour la lumière, merci pour les ténèbres. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessous. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, L'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Il faut se rappeler vraiment avant toute chose que la création, c'est l'œuvre de Dieu. Alors théoriquement, j'enfonce une porte ouverte, ça paraît pas aberrant. Mais est-ce que j'en suis conscient au quotidien? Est-ce que, je sais pas, lorsque je vois des pigeons dans la rue, est-ce que je reconnais l'œuvre de Dieu? Est-ce que quand je vois des herbes folles dans un espace à l'entretien négligé, des herbes folles qui grandissent dans un trottoir, est-ce que je reconnais l'œuvre de Dieu? Et est-ce que je sais prendre le temps pour reconnaître, à l'image de Dieu, que tout cela est bon, que son œuvre est bonne? Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et donc vraiment le premier pas pour entrer dans cette conversion écologique, c'est de renouveler profondément notre regard sur notre environnement afin d'entrer dans la contemplation. Et c'est vraiment la base de la conversion écologique dont nous allons parler tout à l'heure à la fin de ce topo, enfin dans la dernière partie de ce topo, et qui est l'axe directeur de notre parcours. Et alors, au-delà de se dire que la création est l'œuvre de Dieu, elle n'est pas seulement l'œuvre, mais également un mode de sa présence. Alors, c'est vrai que dans notre belle France, c'est pas très compliqué de s'extasier devant les splendeurs de la création, du littoral de la Côte d'Azur aux gorges du Verdon, de la pointe du Raz au volcan d'Auvergne. Les paysages de notre pays nous rappellent vraiment la présence de Dieu dans la création. Et sans tomber dans un panthéisme un peu niais où tout est Dieu, la création est Dieu, les grands saints parmi lesquels saint François d'Assise ou saint Jean de la Croix ont chanté et nous rappellent que dans la création il faut voir une trace de l'amour de Dieu. Et il est bon également de prendre conscience que dans la création tout est voulu par Dieu. Tout, c'est-à-dire même le pétrole. Le pétrole est voulu par Dieu. L'uranium est voulu par Dieu. Le minerai de fer, le charbon, tout est voulu par Dieu. Il n'a rien fait au hasard et rien ne manque à son œuvre. Voilà, alors c'est là où il y a un pas supplémentaire à faire, que je me force à faire, c'est de me dire que Dieu n'a rien voulu au hasard, en particulier les moustiques, les tiques et les guêpes. Mais bon, voilà, c'est une partie du mystère à continuer de creuser. Et puis enfin, avec notre thème du jour, il faut se rendre compte que Dieu n'a pas tout créé d'un claquement de doigts. Il est certes tout puissant, mais il n'a pas tout créé d'un claquement de doigts. Il a pris 6 jours, il a avancé petit à petit, il a fait les choses de manière somme toute assez logique, et comme on peut le remarquer dans la création, hein, la lumière et les ténèbres, hein, la lumière qui est cet élément, on va dire, fondamental de toute science et de toute physique, la terre, la mer, les animaux, les plantes. Donc, le Seigneur a avancé petit à petit. On peut tirer de ça deux conséquences. La première, c'est que le rythme du jour nous invite à ralentir, non pas pour le plaisir, mais vraiment pour se mettre au diapason de Dieu. On doit limiter pour avoir un rapport juste à la création, à son image. Et la deuxième conséquence de ça, c'est qu'au-delà d'une gentille fable sur la création, un mythe fondateur, comme on dit en cours de littérature, il y a une réalité, on va dire, géophysique, géographique, dont on doit se rappeler aujourd'hui. Et donc, par exemple, au premier rang de ça, et hormis toutes les considérations de gaz à effet de serre que la production et la combustion du pétrole rejettent, voilà, se dire le pétrole n'est pas éternel, il a mis des millions d'années à se former, et ben faudra bien apprendre à s'en passer d'ici peu, de même que le charbon ou que l'uranium. Alors maintenant qu'on a contemplé la création, on l'a contemplée un peu vide, on va dire, et vous aurez notamment remarqué que je ne suis pas allé jusqu'au bout du chapitre 1. Parce qu'il manque le chef-d'œuvre. Et quelle place la Bible donne-t-elle à l'homme dans cette création? Avec le psalmiste, on peut se demander: qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Devant l'immensité de l'univers dont on ne connaît qu'une infime partie, devant la richesse d'une nuit d'été, devant les palettes d'un coucher de soleil, on ne peut que s'émerveiller de ce que le Seigneur a choisi de porter son regard sur nous. Pauvre créature, pas très forte, pas très dégourdie, pas très puissante devant un ouragan, et pourtant, le Seigneur prend souci de nous. Donc on va poursuivre notre lecture de la Genèse pour rentrer en profondeur dans la beauté de ce plan de Dieu pour l'homme au sein de la création. Et on va tirer trois caractéristiques fondamentales: qu'on est créé à l'image de Dieu, qu'on est appelé à être les gardiens de la création, et que Dieu nous propose un dialogue amoureux avec lui à travers la contemplation. Avant toute chose, il est bon aussi de se rappeler que le Concile Vatican II a mis un peu l'homme à part dans la création, parce que dans Gaudium et Spes, on nous dit que l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Donc on reprend la Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, homme et femme. Ces phrases qu'on vient d'entendre sont d'une importance capitale dans la pensée sociale de l'Église, et donc en particulier pour sa pensée écologique qui en est une déclinaison. L'homme est image du Créateur, et donc notre rôle, c'est de compléter l'œuvre de la création, car elle est volontairement inachevée. Et c'est de là que vient tout le rôle fondamental du travail joué par le rôle fondamental joué par le travail dans la doctrine sociale de l'Église en tant que facteur essentiel de la dignité humaine. Le travail est bon, la construction, la recherche, la science ne sont pas des anomalies spirituelles ou écologiques. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu n'a rien contre l'usage du pétrole, du nucléaire, civil, car ils sont le fruit simplement de la créativité humaine, de l'usage de l'intelligence, qui sont des dons de sa part. Et donc la pensée chrétienne, contrairement à certains mouvements écologistes, ne prône absolument pas une espèce de retour à la nature un peu oisif, où l'homme serait nu dans le jardin à regarder les oiseaux voler. Mais ça pose la responsabilité de l'homme face à ce qui lui est confié. Et c'est vraiment la clé du problème dans la conversion écologique. Et donc c'est un des axes majeurs de Laudato si. Au verset 28, Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Dieu vit, cela était très bon. Et l'œuvre, l'homme qui est l'œuvre majeure de la création. Et donc l'homme est nommé le gardien de la création. Et dans la veine du texte biblique qui place l'homme dans un jardin, on peut le comparer à un jardinier. Dans Laudato si, au numéro 124, François nous enseigne que selon le récit biblique de la création, Dieu a placé l'être humain dans le jardin à peine créé, non seulement pour préserver ce qui existe, mais aussi pour le travailler de manière à ce qu'il porte du fruit. Ainsi, les ouvriers et les artisans assurent une création éternelle. Et dans le livre du Siracide, le Seigneur a créé les plantes médicinales, l'homme avisé ne les méprise pas. Et donc en tant qu'intendant, en tant que jardinier, on a la responsabilité de ce jardin. Il y a une primauté de l'homme dans la création, mais qui est un rapport d'obéissance et de soumission qui n'est pas du tout à la manière de l'entendre du monde, parce que cette manière d'entendre du monde est marquée par le péché. Et obéissance et responsabilité vont de pair. Et ce que je nous souhaite, c'est qu'au soir de notre vie, après avoir essayé de mener tant bien que mal cette mission de protéger la création, on puisse dire « Intendant fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Et donc, dernière dimension de cette place de l'homme, c'est la dimension du repos. Si je reprends la Genèse, donc cette fois-ci on passe au chapitre 2, verset 1, et ça suit juste ce qu'on vient de lire. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia ce jour-là. Il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. » Et donc cette dernière dimension de la place de l'homme dans la création, c'est celle du repos. Le Créateur ne se confond pas avec sa création. Il prend du recul. Et donc l'homme ne se limite pas à sa mission de jardinier. Il a planté, arrosé, mis de la paille, mis des tuteurs. Et il y a un moment où il s'arrête et il contemple. Alors voilà, ce thème du jour, ralentir, il n'est pas sorti de je ne sais quelle lubie de l'Église ou je ne sais quoi. Hein, on le trouve dès le départ dans la Bible. Et c'est là, hein, bien sûr, tout le rôle du dimanche. À l'image de Dieu, on se repose d'abord du travail humain et on reconnaît que tout vient de Dieu. Et ça s'appelle l'Eucharistie. Et donc la prochaine fois que vous croisez un militant écolo, demandez-lui s'il est d'abord un militant eucharistique. Voilà, donc tout ça c'est bien beau, c'est la théorie, c'est la préhistoire théologique, comme on la nomme. Mais dans l'histoire, il y a eu un petit hic qui s'appelle le péché originel qui survient dans le monde. Et là, c'est le drame du gardien de la création qu'il était censé être. L'homme devient un prédateur. De la logique du don, il passe à une logique de captation, de consommation, de convoitise, de moi-je, moi d'abord. Dans la Laudato si, hein, c'est au numéro 2. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. Et alors Dieu merci, dans l'histoire, le Seigneur est intervenu, il a réglé le problème par le sang de sa croix, et du coup pour nous ça implique de vivre une dimension de conversion. Alors la première chose dans l'écologie, c'est pas de bien faire des choses, d'arrêter de prendre l'avion, de manger moins de viande, même si c'est très bien et c'est nécessaire, mais c'est d'entrer dans un état d'esprit. Comme nous le dit saint Paul, si je n'ai pas la charité, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. Si je ne prends pas l'avion, mais que je n'ai pas la charité, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. Alors avant de parler de conversion écologique, on va parler de la notion de péché écologique, qui est introduite par le patriarche Bartholomée, qui est un des premiers responsables chrétiens, donc orthodoxe, à avoir abondamment écrit sur la nécessité de la sauvegarde de l'environnement. Et donc François cite dès le départ le patriarche Bartholomée, en Laudato si 8, comme une de ses sources d'inspiration. Le patriarche Bartholomée s'est référé particulièrement à la nécessité de se repentir chacun de ses propres façons de porter préjudice à la planète, parce que dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques, Nous sommes appelés à reconnaître notre contribution petite ou grande à la défiguration et à la destruction de la création, nous invitant à reconnaître le péché contre la création. Alors de même que nous confessons nos manques d'amour envers les autres, Dieu ou nous-mêmes, est-ce qu'on pense pendant nos confessions à confesser nos fautes envers la création? Alors c'est un pas à faire, mais voilà, vu nos rythmes de vie qui sont souvent peu soutenables, y a un pas à faire pour le dire, et puis en fait on se rend compte qu'on a plein de choses à dire sur le sujet, quoi, et que le prêtre peut bien nous retenir 5 minutes de plus si on s'étend là-dessus. Donc il y a d'un côté cette notion de péché écologique, et en même temps, au même titre que le péché classique, enfin, hors de cette notion d'écologie, elle est rassurante, alors je mets des guillemets, à deux titres. Ça veut dire que tout espoir n'est pas vain. La première chose, c'est que l'origine des problèmes écologiques, elle n'est pas à chercher dans la présence de la Terre comme une espèce de parasite, et qui est une thèse assez répandue de nos jours, hein, chez les écolos. C'est, voilà, l'homme est un simplement un prédateur, il faudrait qu'il disparaisse et tout irait mieux sur Terre. Mais c'est de se dire que les problèmes écologiques, c'est constitutif à notre nature humaine. C'est simplement qu'il y a 300 ans, on n'était pas suffisamment sur Terre, donc l'industrie n'était pas encore suffisamment développée, et nos péchés se limitaient à des trucs simples, se faire la guerre, manquer la messe dominicale, critiquer notre voisin. Mais voilà, depuis qu'une croissance démographique et industrielle a mis au jour que le gaspillage des ressources et de l'utilisation des combustibles fossiles de manière un peu excessive, ça pouvait blesser la création. Et la deuxième chose qui fait que cette notion de péché écologique est rassurante, c'est que qui dit péché dit depuis 1988 ans, salut offert par Jésus-Christ sur la croix, et ça, c'est pas mal. Donc tout n'est pas perdu. Parce que les liens dans lesquels le péché nous retient vis-à-vis de nous, de Dieu et des autres, ont été brisés par le sang sur la croix, et que c'est la même chose pour le péché écologique. On fait des efforts, comme on fait des efforts pour mieux aimer nos frères, pour mieux aimer Dieu. On fait des efforts qui sont certes insuffisants, et puis voilà, on avance, et puis on va quand même un jour brûler quelques litres de pétrole, on allait faire le tour du monde en avion, mais bon, comme on se sait pécheur, on va se confesser, et puis tout va bien. Et comme le monde est déjà sauvé, j'ai pas la pression folle de certains écologistes qui disent « Oh là, mais il faut, par le seul moyen de mes efforts, je vais sauver la planète. » Bah non, c'est déjà fait. Et pour se rappeler ce juste ordre des choses, j'aime beaucoup cette oraison de la veillée pascale, qui, après la première lecture qu'on a entendue, qui dit « Dieu éternel et tout-puissant, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création l'acte de la création au commencement du monde. » Et François nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas dans Laudato Si, au numéro 13. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Et donc, voilà, d'une certaine manière, la conversion écologique n'est qu'une dimension morale supplémentaire, consécutive à l'adhésion à la foi chrétienne. Et donc, comme toute conversion, vivre une conversion écologique. Si vous aviez décidé de plus tuer votre voisin, formidable, vous allez pouvoir vous mettre au vélo. Si vous avez arrêté de tromper votre femme, fantastique, vous allez pouvoir arrêter de prendre l'avion. Voilà, je caricature, mais vraiment, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut l'entendre. Voilà, donc là, on a dans cette troisième partie, on a opéré une prise de conscience. On s'est dit que voilà, le Seigneur nous avait sauvés. Et du coup, on a une réponse de notre part à apporter. Et malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend à propos de la planète, à propos du fait que ça va pas très bien, que le climat se réchauffe, que tout s'emballe, le monde est sauvé. Et donc, comme le monde est sauvé, on va pas rester les bras croisés en attendant que le Seigneur vienne juger le monde. Et donc, comme dans le reste de toute vie morale, on est invité à faire des efforts, à pratiquer l'ascèse, et surtout à garder toute confiance en Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase de saint Ignace, « Agis comme si tout dépendait de toi, et prie ou aie confiance en Dieu comme si tout dépendait de lui. Et donc, ben, il s'agit maintenant de s'attaquer à des manières de faire, à s'attaquer à des modes de pensée qui nous conduisent dans le mur. En théologie, on appelle ça des structures de péché. Et des structures de péché, je ne sais pas, dans le monde actuel, il y a des structures de péché qui nous conduisent à des dérives bioéthiques. Et ben, de la même manière, il y a des structures de péché qui nous conduisent à des graves problèmes environnementaux. Et donc, ce que rappelle Laudato Si au numéro 9, c'est que Bartholomée a attiré l'attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux qui demandent que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique, mais à travers un changement de la part de l'être humain, parce qu'autrement, nous affronterions uniquement les symptômes. Il nous est proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager. Dans un mouvement où il faut apprendre à donner et non simplement à renoncer. Alors concrètement, avant de terminer, le meilleur moyen de se mettre en route, on l'a vu, c'était de commencer par ralentir notre rythme de vie. Et donc, pour vivre une conversion écologique, un début de conversion écologique, une mise en route, voilà, posons-nous ces questions de notre rythme de vie dans la totalité de ses dimensions. Est-ce que je prends le temps de contempler la création? Est-ce que je suis encore émerveillé du spectacle renouvelé des couchers de soleil, du vent sur la mer? Est-ce que je rends grâce simplement pour le temps qu'il fait? Est-ce que j'ai des temps de repos dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année? Est-ce que je sais éviter la voiture lorsque c'est possible de privilégier la marche, quitte à prendre un peu plus de temps? J'ai l'exemple de paroissiens qui, sans être spécialement des écolos acharnés, se sont dit, bah tiens, on habite à 5 minutes en voiture de la paroisse et 15 minutes à pied, ben on va venir à pied. Et est-ce que également je sais faire silence? Est-ce que je sais vivre des instants sans radio, sans musique, des moments pour moi et pour Dieu? Voilà, donc aujourd'hui, Pour récapituler, on a revu ce que c'était que la création, pourquoi la création, qu'est-ce que Dieu y avait fait. On a revu la place centrale de l'homme qui est appelé à vivre en tant que jardinier et qui marqué par le péché, ben fait pas très bien son travail de jardinier, mais comme il est sauvé par le sang de Jésus, et ben il a la possibilité de se convertir. Et donc c'est une dimension qu'on va creuser au cours des topos suivants. Donc on se retrouve dans un mois pour aborder un deuxième volet du ralentissement qui est le temps de la rencontre. On va faire le lien entre les quatre blessures fondamentales du péché originel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter le prochain topo. Et puis d'ici là, je vous invite à suivre les exercices qui sont mis prochainement en ligne sur le site de Radio Maria France. Donc c'est un lien vers un PDF qui vous permet à partir de textes de la Bible et de Laudato Si, de méditer sur les points qu'on a vus aujourd'hui, et puis vraiment de se mettre en chemin. Et donc vous êtes invités à faire les exercices 1 à 3 de la première semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, et on termine avec la prière pour la création du pape François. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu, Fils de Dieu Jésus. Toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création. Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu, ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen.
Merci Pierre Horry pour cette très très belle émission. Nous vous retrouvons très très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.